What is this, Connor?
Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filomena.
Filomena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che disse? Come fa che disse?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles, les Spike Lee et les Lanzmann du cinéma, bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et au menu de ce Cinémascope, essentiellement des plats de résistance, ou comment filmer les résistances plurielles. En tout cas, c'est ce à quoi nous invite à réfléchir l'actu du cinéma, et singulièrement les formes de résistance des minorités, c'est-à-dire pas celles des hommes blancs, je me suis rendu compte de ça. Mais voilà, on parle de tout ça autour des films Fanon, Oksana, La chambre de Mariana, puis on dira aussi un mot de lumière avec Olivier. Salut Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et Alexis.
Hello.
Et aussi Cathy, qui elle aussi à sa façon résiste, puisque elle va nous parler de Cannes. Elle ne parle pas de Mission Impossible, c'est ça, voilà. Elle n'en parle qu'à l'extrême fin de ce très court entretien enregistré hier, et elle évoque aussi un film ukrainien, d'ailleurs, on en reparle. On est à Cannes, enfin presque, on est avec Cathy qui est à Cannes. Salut Cathy.
Salut Sophie, salut Sylvain.
Alors, Cathy, t'es descendue là, il y a quelques jours à Cannes, même un peu plus. Et tu peux nous expliquer, j'allais dire pourquoi, ça paraît évident, mais à quel titre tu es descendue à Cannes?
Alors oui, je suis arrivée dimanche sur la croisette en raison des rencontres nationales art et essai qui sont toujours un petit peu avant le festival. Donc là, ce sont 3 jours professionnels. Autour du mouvement art et essai qui fête d'ailleurs ses 70 ans. Donc il y a une dizaine de projections qui sont prévues, il y a 1000 adhérents pratiquement présents aussi, et puis donc des films, une table ronde sur toujours des questions par rapport à la filière cinématographique et l'art et essai en particulier, et puis l'Assemblée Générale bien sûr. Donc, j'étais jusqu'alors administratrice de cette structure nationale, je devais d'être encore là cette année pour boucler la boucle. Hein. Je suis rentrée il y a une dizaine d'années dans la structure. Et là, je présentais avec une collègue qui est co-responsable avec moi le rapport du comité 1525 sur l'année 2024 et toutes les actions qu'on a menées pour ce renouvellement du public en salle, et en salle arrêtée en particulier. Voilà.
Donc là, est-ce que tu y allais quand même aussi dans une optique de sélection des films avec le comité 1525 ou plus? Est-ce que tu seras encore dans le comité?
Oui, tout à fait. Le comité s'est réuni hier matin pour déjà pré-sélectionner les films 1525, parce que dans ce qui a été proposé... Et de manière plus générale d'ailleurs, on voit quand même que la jeunesse parle aux cinéastes. Il y a aussi des jeunes cinéastes qui sont présents et qui présentent leur premier film ou leur second long métrage. Donc plus généralement, je trouve qu'il y a pas mal de films autour de la jeunesse qui mettent en scène des personnages plutôt jeunes. Et j'ai eu cette année encore le privilège de pouvoir être dans ce comité de sélection. J'ai pu voir pas mal de films avant tout le monde pour sélectionner ces 10 films qui sont des films qu'on peut retrouver à la Semaine de la Critique, à la Quinzaine des cinéastes, à Un Certain Regard, à Cannes Première ou en séance spéciale.
Et tu as vu donc déjà là en l'espace de quelques jours, enfin bien quelques jours tapés maintenant, ouais.
Oui, on s'était réunis, en fait, en général, on se réunit une semaine sur Paris fin du mois d'avril. Et oui, on a pu visionner une trentaine déjà, un peu plus de 30 longs-métrages.
Okay.
Donc, j'ai pris pas mal d'avance. Ouais. Mais il y avait une sélection quand même avec des propositions assez fortes de films français. Mais c'est aussi un peu normal parce que la France est un pays important hein, dans le cinéma et qui produit quand même un certain nombre de films par rapport à d'autres pays européens ou même au niveau mondial. Donc on a de fortes propositions côté français et puis quelques cinémas du monde, on va dire, également. Dont un film irakien que j'espère dont on entendra parler, mm-hmm. s'appelle The President's Cake. Voilà, entre autres.
The President's Cake, ok. Ouais. Un autre, d'autres films peut-être qui se démarquent, bon, on aura le temps d'en reparler peut-être même au prochain Cinémascope, mais là tout de suite un peu à chaud de tes premières impressions là-bas.
De ce que j'ai pu voir pour le comité, enfin pour dans le comité de sélection.
Dans le comité de sélection ou même au-delà.
Oui, au-delà. Bah alors là, là maintenant la compétition elle commence hein, dans toutes les différentes sélections. Donc là pour l'instant, on a surtout quelques, enfin on a des échos. Non, moi j'ai même pas regardé, mais j'ai vu deux films qui sont en compétition. Il y a le Sergueï Ionitsa. Qui s'appelle les deux procureurs, qui a été présenté hier, et puis un film allemand d'une réalisatrice qui s'appelle Sound of Falling, qui est très conceptuel, très immersif et donc très particulier. Donc là, pour l'instant, je on va voir. C'est un peu de recul encore pour ces films. Mais sinon, dans les films que j'ai pu voir, il y a des films un peu hybrides. On peut parler de celui de Romane Boringer, par exemple, Depuis que je l'aime, qu'elle a réalisé à la fois sur sa mère. Elle fait un parallèle avec Clémentine Autain, qui parle à travers un roman éponyme, enfin c'est même pas un roman parce que c'est vraiment sa propre histoire, parle de sa mère, Dominique Lafin, actrice. Et donc c'est un film qui parle de manière plus universellement des mères, mais à partir d'expériences personnelles, comment elles en arrivent à penser leur rôle de mère elles-mêmes. C'est un film qui mélange pas mal de choses, documentaire et fiction, images d'archives, reconstitution. C'est aussi ce cinéma qu'on découvre maintenant, où on mélange un petit peu plus les formes pour exprimer ou pour raconter une histoire que je trouve plutôt intéressant. Après, on peut y être plus ou moins sensible, mais en tout cas, il y a une vraie proposition de cinéma, quoi.
Je te propose qu'on reste là-dessus. Là, on est.
Oui, d'accord.
On va rester là-dessus et tu nous en dis plus la semaine prochaine.
Oui, une autre fois, bien sûr.
Ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné un petit peu l'ambiance et de ce qui se passe.
Après, l'ambiance, c'est Tom Cruise quand même et De Niro. Enfin, en tout cas, le cinéma américain, ça démarre surtout comme ça. Parce que là, j'ai parlé de deux films européens, mais. C'est plutôt l'ambiance est plutôt autour de hier en tout cas de Tom Cruise et de Robert De Niro.
Ouais, qui ont retardé d'une demi-heure.
Qui ont enflammé un petit peu la croisette. Ouais.
Merci beaucoup Cathy.
Merci Sophie.
Et bon film. À bientôt.
Bon, merci.
Salut. Bon alors on parle vraiment des films là, Olivier ou bien
oui. Non.
Alors on parle.
C'est pour ça que je suis venu. J'ai vu quatre films.
Mais oui. On va commencer par Fanon, justement.
Fanon des sources, non.
Oh, il me semble,
ah,
non.
Non, c'est pas ça, je crois pas.
Fanon des sources. On écoute On écoute la bande-annonce.
Aux colonies. L'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux.
Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains ?
Ce sont des hommes comme vous et moi.
Ouais, mais comment vous voulez changer les choses ici en Algérie?
Ici comme ailleurs.
Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée.
Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous.
Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. On
n'a pas le droit de se défiler. Et enfin une chance que ça change ici.
Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution.
Oui, ouais. Fanon de Jean-Claude Barny, on vient d'entendre Olivier Gourmet là, à l'instant, mais avec Alexandre Bouillet surtout, qui est Fanon. J'allais dire, enfin un film dédié à Frantz Fanon, au moment où on commémore les 100 ans de sa naissance. Mmh. Un film qui se concentre, mais tu vas sans doute en parler, Olivier, sur quelques années du psychiatre quand il était à Blida en Algérie.
Ouais,
alors, c'est une excellente nouvelle d'avoir fait un film sur Fanon, mais est-ce qu'il fallait faire celui-là ?
Une biographie filmée, effectivement, elle se heurte à deux problèmes pratiquement impossibles à résoudre, mais qu'on peut réduire d'une certaine manière. Le premier problème, je crois que c'est de porter à l'écran une personne, alors que comme moyen de porter à l'écran une personne, on n'a que des personnages. Donc les personnages du film et du scénario qu'on a écrit pour ce film. Donc là, il y a une distance de la personne au personnage qui est difficile à parcourir, à combler, un fossé. Et puis il y a un autre problème, puisque quand on fait une biographie filmée, en général, on fait une biographie de quelqu'un qui a eu une importance quasi historique, enfin dans les événements de son temps, etc. Et alors l'autre gageure, d'une certaine manière, c'est d'arriver dans une biographie filmée à expliciter le contexte, c'est-à-dire à avoir le sens qu'a l'action, la compréhension du personnage principal dont on fait la biographie. Je pense que le film a raté les deux réductions du problème. On en a parlé du reste avec Cathy vendredi dernier, mais je crois que c'était hors antenne. Le choix de l'acteur est, à mon avis, pas bon, parce que le type est vraiment trop beau. Il a une esthétique et un mouvement de quasiment de mannequin noir. Et donc, ça brouille le propos, parce que Frantz Fanon, c'est pas ça du tout, du point de vue du personnage. Il faut quand même voir que c'est un mec qui s'est engagé, il était à la Martinique, il s'est engagé auprès des Anglais en Dominique, donc il a d'abord fallu faire ça. Ensuite, avec des chefs français, ils étaient 400 ou 500, ils ont quitté la Dominique, et ils ont été envoyés en Afrique du Nord, et de là, il a fait le débarquement de Provence, il a remonté toute la France, il a été blessé dans les Vosges, il s'est fait soigner pendant 2 mois, il est revenu au front. Enfin, je veux dire, après ça, il retourne à la Martinique finir son bac et il vient en France avec des subventions pour anciens combattants pour faire médecine et devenir psychiatre, et il demande à être nommé en Algérie. Je veux dire, c'est quand même du personnage. Ça dépasse un peu le sens commun, une telle activité, une telle force, voilà. Et on a, je vous dis, un monsieur propre, avec une épouse blanche qui arrive là et dont on comprend absolument pas qui il est, quoi. Et pendant tout le film, on comprendra jamais qui il est. Et quant au contexte, le contexte est quand même très complexe. C'est la décolonisation, c'est la guerre coloniale. Du film, on retient surtout les ambiguïtés du personnage. Parce que finalement, il accepte le sacrifice d'un militant démocrate au profit des colonels qui vont donner le Front de Libération Nationale. Mais à côté de ça, il a des positions extrêmement courageuses dans la mesure où il soigne même des colons tortionnaires. Donc, donc on n'a pas les explications, et c'est pas facilité par le fait que Frantz Fanon, malheureusement, est mort très jeune, à 36 ans, et que dans sa littérature, le dernier livre, Les Derniers de la Terre, on peut pas dire qu'il soit non plus extrêmement explicite. C'est-à-dire il reste dans une dialectique assez binaire que les dominés, les colonisés sont dominés par des dominants, les colons, et nous, la révolution, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dominer les dominants pour qu'il n'y ait plus de dominés. Et à aucun moment, il n'aperçoit que quand on domine des dominants, il y a toujours des dominés. Et que ça ne change pas grand-chose, surtout si on emploie les mêmes moyens. Et je vais finir parce que... j'ai de la lecture des Damnés de la Terre, qui est très fort, c'est une lecture qui est très forte, mais à titre de témoignage. Philosophiquement, c'est pauvre parce que ça nous laisse sur notre faim, dans la mesure où on voit un Fanon qui devient nationaliste, alors qu'il a participé au Second Conflit mondial, qui est le produit des nationalismes. Donc on est un peu perdu, et les Damnés de la Terre, l'ouvrage de Fanon, là, La Découverte, qui a été republié, il finit par un dossier des cas de psychiatrie que Fanon a étudié et soigné. Et là, on comprend qu'effectivement, il soit difficile de se faire une théorie quand on est face à une réalité aussi brutale, aussi violente, quoi.
Alors Fanon, ça aura peut-être le mérite quand même de faire... de faire lire, exactement, Fanon, et que certains se rendent compte. J'en ai parlé autour de moi, et beaucoup m'ont dit « Ah, qui ça ?» Fanon,
c'est ça,
oui.
C'est très important, Fanon. Hein.
Donc, essentiel. Au moins ce mérite, sinon vous pouvez quand même aller voir Fanon, il est à Aubenas et au Vence. On continue dans La Résistance, d'une autre manière.
Не звертаємо увагу на звуки. Кому на роботу?
Кому, май ліпий?
Май комендант!
Дивись, правда гарно?
Bei dir bleiben.
Du bist mein Herzblut. Vertrau Marianne.
Wenn du willst.
Oui, La Chambre de Mariana de Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry en ukrainien dans le film. Artem Kirik. Un film, alors il y a ce court extrait parce qu'il me semble que c'est un film qui prête une grande attention au son, à l'univers sonore. Je vous laisse en parler. Qui commence
Donc Alexis. Oui, donc La Chambre de Mariana, on entend l'ukrainien et Mélanie Thierry qui parle ukrainien et c'est véridique, elle a appris l'ukrainien spécialement pour le film parce qu'à la base elle n'était pas du tout castée pour le film, elle était elle a déjà joué pour le réalisateur dans La Douleur, mais en fait à la base le réalisateur voulait une ukrainienne et en fait faute de casting là-bas il n'avait pas trouvé la perle rare. Il a décidé de choisir Mélanie Thierry, qui s'est proposée d'apprendre l'ukrainien. Ça a pris beaucoup de temps parce que forcément c'est une langue pas facile. Et en plus, il faut que ça soit une langue qui soit parlée, vécue. Hein. C'est pas que raconter. Donc c'est une performance assez exceptionnelle de Mélanie Thierry, il faut le dire. Alors pour résumer un peu le film, nous sommes en Ukraine, 1942, c'est un garçon juif, Hugo, qui est caché dans une maison close par Mariana, prostituée non juive, alors que sa mère disparaît dans la fuite. Il vivra reclus dans de longues années dans une armoire. D'où le son, voilà. Et cette étroitesse, née dans un grand cinéma. Et Emmanuel Finkiel filme le hors-champ comme d'autres films l'épique. Filmer dans une armoire, c'est quand même assez réducteur. Et c'est une prouesse quand même. C'est un défi, je dirais même. Je sais pas ce que tu en penses, Olivier.
C'est très bien fait.
Et je trouve que même quand on passe hors l'armoire, moi, c'est peut-être le petit détail que je peux dire, c'est que j'ai été déçu par rapport au reste. Je pense que ça a plus d'intensité dans l'armoire que le reste, bizarrement. Hein, mais
Est-ce que c'est pas le contre, enfin c'est l'exact opposé de la guerre comme on la vit nous tous, à complètement à distance, mais abreuvée d'images?
Oui.
Et que du coup c'est anti-spectaculaire. Je ne sais pas, j'ai pas vu le film. C'est une question que je vous pose à vous deux.
Je dirais que c'est plus fort. Enfin, le nom. Enfin, moi ça m'a fait penser un petit peu au film de l'année dernière qui était Zone of Interest avec le hors-champ en fait. Alors on voit des choses, mais on voit en vision réduite. Et en fait, on s'attache à certains objets dans le film qui sont aussi l'imaginaire du jeune homme, et c'est assez je trouve que c'est assez intense, assez chargé. Je pense aussi qu'il y a des choses même à redire à l'heure d'aujourd'hui, même sur la fin du film, il y a des choses qu'on pourrait changer à l'heure d'aujourd'hui, qui passeraient plus maintenant. Alors on est dans un contexte quand même, faut remettre le film dans son contexte, c'est ça aussi qui est hyper important,
parce que c'est une adaptation, parce que c'est l'adaptation du livre d'Aaron Appelfeld.
Exactement.
Oui, alors justement, je crois que on sent la présence du livre pendant tout le temps du film.
Qui est un livre de 2008, c'est ça ?
2008, c'est ça.
Pas, qui est un livre pas entièrement autobiographique.
2006, pardon, excuse-moi.
Non, je t'en prie. C'est un livre, pardon, qui n'est pas entièrement autobiographique. Hein. En fait, ça, pour Aaron Appelfeld, ça ne s'est pas passé comme ça se passe dans le film. Donc il y a réécriture avec quand même un point commun qui est ce dont Alexis vient de parler, c'est-à-dire ce gamin qui est enfermé dans une sorte de placard, pas plus grand qu'une armoire, c'est une armoire. Hein. Et effectivement à un âge où il devient progressivement un homme mûr. Et donc il y a une espèce de conjugaison d'une investigation spatiale dans le placard et hors du placard, parce qu'il y a un trou dans la porte, parce qu'il y a une fissure dans le mur qui lui permet de voir certaines choses. Et puis, comme tu disais, il écoute et il interprète. Donc, il y a toute cette vie intérieure du gamin que Appelfeld a vécu, lui, évidemment enfant, mais dans des circonstances très différentes, quand même. Pour lui aussi, il y avait un hors-champ complet dans lequel il a fallu qu'il se constitue. Et je pense qu'effectivement, si on sent l'absence du livre en voyant le film, c'est parce qu'il y a une grande place qui est accordée à l'intériorité, à la naissance de la sexualité, par exemple, du désir de la femme en ce petit garçon qui commence à être un jeune homme, en fait, hein, un adolescent. Et évidemment, ça, c'est difficile à porter à l'image. Alors, je crois que l'auteur du film a trouvé un langage tant qu'il est confiné. Là, il a trouvé le langage. Et puis, hors du confinement, je crois que le réalisateur s'est retrouvé avec un langage cinématographique très, très banal, et que donc, d'une certaine manière, le soufflet retombe à un moment où il aurait pu, au contraire, se souffler, être dégusté, quoi, enfin, d'une certaine manière. Il ne faut peut-être pas filer trop les métaphores, mais voilà. Et donc, ce film-là, à la fois, il a quelque chose de vraiment admirable, hein, le hors-champ, la scrutation, la tentative d'investigation de l'intériorité, tout ça, c'est Mélanie Thierry parfaite. Elle est même, je dirais, un peu surexposée. Elle finit par être un peu le centre lumineux de toute l'image tout le long du film, un petit peu. Le gamin étant plus beau que fort interprète, quoi. Enfin, voilà, il y a un phénomène comme ça. Mais donc du coup, elle est parfaite, quoi. Et le reste, bon, est un petit peu en arrière-fond de Mélanie Thierry, quoi. Donc c'est un film qui est à la fois satisfaisant par des tas de points de vue et puis un peu décevant par d'autres.
Ouais. Et par rapport au jeune, c'est un jeune ukrainien qui a été, en fait, il cherchait une ukrainienne, il a trouvé l'ukrainien plutôt, le jeune ukrainien qui est débutant, hein, voilà, ouais. Un jeune acteur.
Alors la famille de Appelfeld et donc du petit Hugo, ils sont germanophones, en fait, ils parlent allemand entre eux. Et là, heureusement qu'Hugo n'a pas à parler allemand, parce que sinon, ça serait peut-être un petit peu...
Pour finir, je pense qu'il a été grand dans le petit et petit dans le grand.
Oui, c'est ça. Ah, c'est une jolie formule, ouais, c'est exact. Ouais.
Ah, restons là-dessus. Alors, La chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel, c'est à voir à Aubenas. Il sera bientôt au Vence et à Barjac également. Allez, encore un autre film. Il s'agit... Ben, on reste en Ukraine, finalement.
Je suis réfugiée politique, artiste, activiste, extrémiste.
Oksana de Charlène Favier avec Albina Kortz qu'on vient d'entendre, Oksana. Olivier.
Oui, Oksana. Alors justement, j'avais envie de parler d'Oksana après Fanon parce que je disais qu'une biographie filmée rencontrait deux problèmes, celui de porter à l'écran une personne quand on n'a que des personnages et puis d'expliquer un contexte. Et que bon, Fanon, c'était moyen dans la réalisation de cet objectif-là. Oksana, là, c'est beaucoup mieux réussi, justement. Et je pense que c'est beaucoup mieux réussi parce que, d'une part, on a une réduction de l'emprise temporelle. C'est-à-dire, on va de la fin de la formation d'Oksana, qui est d'abord une peintre. Elle a pu aller à l'école d'icône, alors très jeune fille, alors que normalement, c'est réservé aux hommes d'âge mûr. Donc ça, c'est déjà arrivé. Donc ça nous montre la formation d'une peintre et comment cette peintre est amenée à la résistance politique en raison, tout simplement, du caractère plus que scandaleux du pouvoir politique à l'époque. Que ce soit en Ukraine, qui reste un état satellite de la Fédération de Russie, hein, comme au même titre que la Biélorussie, quoi, si vous voulez. Donc elle est dans une atmosphère politique intenable, pour quelqu'un qui a un tout petit peu de liberté de penser et de vivre, quoi. Et ce qui explique qu'évidemment, elle part pour Paris, rapidement. Parce que c'est pas possible. Si elle reste en Ukraine, qu'elle va en Biélorussie ou en Russie comme elle a été, elle va finir par y mourir. Mais y mourir. On apprend d'ailleurs dans le film que son passage en Russie, bon, si elle a pu revenir, c'est en raison de la gentillesse d'un de ses geôliers, quoi. Mais vraiment sa gentillesse, hein, qui a dit, écoute, tant que là, t'as encore quelques jours, je peux te laisser partir sans avoir de pépins avec ma hiérarchie. Alors casse-toi, et puis reviens jamais, parce que sinon, c'est la Sibérie, quoi. Donc voilà, donc elle arrive sur Paris, où elle milite, mouvement femelle, je ne vais pas faire l'histoire du mouvement femelle, mais je parlais de contexte tout à l'heure, le contexte c'est là est bien...
Ouais. Certains ne connaissent pas d'ailleurs. Hein.
C'est comme Fanon, voilà, ouais. Exactement. Allez voir le mouvement femelle, c'est intéressant. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, comme on a les éléments en main, on comprend bien comment, en particulier... Oksana va être trahie personnellement, mais aussi par les militants, d'une certaine manière, et que cette trahison, bon, bah, elle s'en remettra jamais. Mais ça permet de comprendre son état d'esprit après, étant donné qu'en France, elle pourrait militer, elle peut créer, elle est rentrée aux Beaux-Arts, elle peut exposer, apparemment, tout est bon, mais... Ayant subi cette terrible trahison, elle est conduite dans une impasse et on comprend que, parce qu'on pourrait se dire, cette impasse, c'est sa propre impasse, c'est sa psychologie, c'est voire sa pathologie qui l'a conduit là. Je pense qu'on comprend bien que, bon, même s'il y a un fond pathologique, dépressif, anxieux, enfin, tout ce qu'on voudra, révolté, mais...
La révolte, c'est pathologique.
Non, pas la révolte, mais quand on se fait mal à soi-même en se débattant, évidemment, il y a quelque chose de paradoxal, évidemment. Donc, et c'est dans cette impasse-là qu'il y a donc un côté anormal, mais justement, on comprend que à terme, c'est parfaitement normal. C'est une impasse qui s'est constituée objectivement autour d'elle. C'est très très bien joué. J'ai beaucoup aimé la manière dont on voit son travail de peintre depuis le travail de l'icône quand elle est petite fille, le travail de l'icône même quand encore elle est à Paris, et puis son travail de plasticienne. On arrive bien à le voir, alors que souvent filmé la peinture au cinéma, c'est assez raté, hein, quand même. Hein. Donc là, ça me paraît assez réussi.
Tu l'as vu, toi, Alexis ? Non. Oksana, alors, C'est un film qu'on peut encore aller voir à Tuaille le 27 mai, c'est-à-dire mardi prochain. On espère qu'il sera à nouveau reprogrammé, parce que, comme vous le disiez avant, des films comme ça sur la résistance et de cette manière-là, c'est un peu atemporel et on peut le rediffuser.
Oui, c'est vraiment une figure. Ouais.
Est-ce qu'on dit... Alors, on peut parler à la fois des un an d'Evans... Ou, je ne sais pas, si tu as envie de dire un mot de Lumière.
Bah, Lumière, moi je...
Lumière, l'aventure continue de Thierry Frémaux.
En un mot, Lumière, il faut aller le voir pour voir les films Lumière, qui sont des petites séquences de 50 secondes, qui sont des merveilles.
Il y a 120 vues, comme ça.
C'est extraordinaire. Mais vraiment, il faut aller voir ça sur le grand écran. Moi, j'étais dans la salle 1 du navire. C'est une chance, quoi. Franchement. Bon, voilà. Une fois qu'on a dit ça... Pourquoi on a laissé un tel trésor entre les mains de Thierry Frémaux, quoi. Franchement, ce mec raconte n'importe quoi. L'art, le cinéma art éthique, le cinéma artisan de paix. Il nous dit des trucs, Méliès c'est Fellini, Lumière c'est Rossellini. Et parce qu'un opérateur de lumière, à un moment donné au Japon, filme une famille en train de prendre le thé, il dit qu'il y a déjà tout au zoo. Je veux dire, le mec, il faut qu'il arrête les amphétamines... Et puis qu'il arrête de faire du cinéma. C'est le mieux, je crois. Parce que franchement, les séquences lumière sont entrecoupées de carton, vous savez, comme dans les films muets, quoi, où on nous dit ce qu'on va voir. Mais on a des yeux.
Ah oui, d'accord.
Ça va, on n'a pas besoin... Là, vous allez voir des bateaux.
C'est hyper fléché, ok.
Bon.
Merci Thierry.
Il faut reprendre le matériel et le donner à quelqu'un qui sait en faire quelque chose.
Donc allez voir quand même pour ça simplement justement les 120 vues cinématographiques tournées entre 1895 et 1905 par Louis Lumière et ses opérateurs. Et puis donc ça, si vous voulez aller le voir, c'est à Aubenas. Encore dimanche et lundi, c'est les dernières séances là.
Moi, je peux aussi bien y retourner, hein, tellement c'est beau de voir les images lumière, c'est incroyable. La pellicule est de
Mais
très
sans
grande,
Thierry, on laisse Thierry à Cannes.
Et de très grande qualité.
Avec
la
Cathy,
pellicule.
Régale-toi, Cathy. Ouais. merci beaucoup, Olivier. Quand même, disons même plus qu'un mot. Alexis, ça fait un an que tu as repris la gestion du cinéma d'Evans, Vivance. Est-ce que on peut faire un petit bilan ?
Oui, alors moi ça fait un an, ça c'est sûr, parce que je suis arrivé en mai avant que le cinéma réouvre en juin. Il y avait un grand chantier et au bout d'un an, je suis content de dire que le cinéma d'Evans a repris de belles couleurs, que nous projetons au 19 juin sur les plus de 15 000 entrées, 15 500 entrées. Alors pour une reprise, c'est déjà très bien, parce que le cinéma a pu faire 19 000 entrées en 2019, qui était une année assez exceptionnelle pour le cinéma. Mais on est sur les bonnes bases. Oui.
Et puis surtout, pardon, je ne veux pas te couper, tu connais mieux le sujet que moi, mais il me semble que ce qui est intéressant aussi dans ce qui se passe au Vence, c'est que tu as réussi à fédérer et à, on va dire, le tissu associatif, culturel. Il y a de la vie, ça devient, il me semble que l'espace Vivance est un espace culturel, vraiment.
D'où son nom, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, le nom Vivance, il parle tout de suite et on se dit, Vivance, il y a vivant, donc il faut donner cet espace culturel hyper important dans ce cinéma-là, donc c'est 90% de cinéma et 10% d'autre chose. Quand je dis autre chose, ça va être d'autres arts, donc on va passer par la peinture, la sculpture, et j'en passe, la littérature, et en fait, là par exemple, ça va faire un an et on est en train de mettre en place la mezzanine qui n'était pas pour l'instant mise en route, mais en fait on va appeler ça la mezzart, et on va y associer littérature, des expos aussi, photos, peintures, sculptures et d'autres, donc tous les mois ça changera. On a aussi cet espace musical. En fait, on va avoir un ensemble d'arts sur cette mezzanine qui vont se mélanger pour créer un espace où on pourra y rester et flâner, on va dire, flâner dans cet espace pour prendre son temps et aller voir un film par la suite ou pas. Voilà, l'objectif, c'est que ce cinéma reste vivant toute la journée pendant nos horaires d'ouverture et qu'on ne s'arrête pas à aller voir un film et de continuer cette expérience à travers d'autres formes d'art. Voilà.
Même si s'arrêter aller voir un film, c'est peut-être le summum.
Exactement. Ouais. Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que suite à beaucoup de décisions, le cinéma va changer d'écran. Donc, on va passer sur un écran un peu plus grand et de meilleure qualité. Et on va passer sur un son aussi de meilleure qualité qui, pour moi, quand je suis arrivé, était assez vieillissant. Et on va aller sur un son 7.1 qui sera de meilleure qualité. Pour passer des films. Alors sur certains films c'est pas nécessaire bien sûr, mais d'autres le sont plus et on aura un son plus homogène dans la salle, et il y a une mise aux normes de la salle de cinéma qui est faite actuellement par nos services techniques. Tout ça pour amener sur un projet peut-être de salle 2, voilà, dans les années à venir.
Tu teases là, non ? Ok, très bien. Eh ben, restons là-dessus.
Oui, c'est bien. Non, mais c'est effectivement, nous, on est ici à la radio, on est un peu témoin, évidemment, de cette année écoulée. Et ça fait très, très plaisir de voir, ne serait-ce que d'aller sur le site de Vivance et puis de regarder la programmation. Et puis, effectivement, les à côté, tu parles de 10%, c'est 10% d'en prendre connaissance aussi. Oui, c'est super. Ouais.
Voilà, il l'a dit, c'est super. Terminons là-dessus. Merci à tous les deux d'être venus ici à Cinémascope. On se retrouve vendredi prochain. C'est pas férié, il n'y a pas de pont, non, tout va bien. Bon, on se retrouve vendredi prochain alors. Ciao.